Sur
chase you out of earth.
Sur Radio G, on est ensemble pour parler basket avec l'émission de Génération Sport du jour. Et tout de suite, c'est le générique. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. Très content en ce mardi 28 novembre 2023, donc pour cette heure de sport qu'on va passer ensemble avec les chroniqueurs qui sont là évidemment autour de la table. Peut-être léger couac à l'antenne sur l'intro, on s'en excuse. Voilà, l'équipe est quand même presque au complet puisque Cédric malheureusement n'est pas avec nous. On lui passe le bonjour s'il nous écoute, mais les deux jeunes, j'ai envie de dire les deux jeunes bambins sont encore avec nous. Faustin à ma gauche, salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex et tout le monde, ça va toujours bien. Toujours pas de match de basket pour moi personnellement.
Non, toujours la blessure. Blessé.
Mais mon équipe gagne, donc c'est le principal.
Ah bon, voilà,
c'est déjà ça. Maintenant,
tu viens les supporter.
Évidemment,
évidemment, toujours.
C'est
présent.
Mon rôle.
C'est ça.
La voix sans mes.
D'ailleurs, tu vas peut-être même sur le banc, non?
Ouais, ça. Je mets de la voix. Je suis là. J'ai de le coach.
T'encourage un petit peu. Très bien. Clément est également là à ma droite. Salut Clément, comment ça va?
Salut Alex. Salut à tous. Moi, pour ma part, je peux jouer. Pas de blessure.
Pas de blessure, c'est bon.
J'ai joué à Beaugé ce week-end. Victoire 5-1 avec un petit triplé à la clé. Ça fait plaisir.
Oh, attention. Ça monte
dans le match de la semaine du club, je crois.
Oui, c'est ça.
Ça doit être ça. Bah, bien sûr, évidemment. En tout cas, ça marche bien pour toi.
Et possiblement monter en région si on gagne nos trois prochains matchs. Donc
on attention, on suivra ça de près. Évidemment, t'inquiète pas. Donc, dans cette émission, c'est une émission spéciale UFAB 49, notre partenaire à l'année qui nous accompagne donc pour cette dernière émission du mois de novembre. Et on reçoit, après avoir reçu Mathieu Leray il y a un mois, on reçoit Marius Blanchard, assistant coach donc de l'équipe professionnelle. Marius, bonsoir.
Bonsoir les gars, merci de l'invitation, c'est très sympa.
Eh bien, avec plaisir. On va revenir donc dans la deuxième partie d'émission sur ton arrivée à Angers, sur ton parcours et sur cette saison en cours à l'UFAB qu'on espère qui qui va peut-être repartir, notamment sur le point de vue du championnat. Donc voilà, on suivra ça. De toute façon, Faustin nous fera un point justement sur les résultats des clubs locaux de basket. Donc voilà pour le programme de l'émission. Et puis voilà, vous en avez l'habitude. On va commencer par les actualités locales et internationales avec. Voilà, comme d'habitude, le SCO en bas, les Ducs d'Angers, et puis après sur l'international, on parlera notamment, pourquoi pas, des matchs de Ligue des Champions de ce soir. On va donc commencer par le SCO. À deux journées de la trêve hivernale, le SCO d'Angers est assuré de terminer à minima dans les places de play-off à la mi-saison. Toujours dauphin de son voisin Lavallois, les Angevins ont enchaîné hier soir une 7e victoire sur leurs 9 derniers matchs de championnat. Opposés au Stade Malherbe de Caen, les SCOistes retrouvaient leurs anciens joueurs Romain Thomas ou encore Anthony Mandrea, ainsi que leur ancien directeur sportif Olivier Piqueux, qui était présent en tribune. Tranchant dès l'entame, les locaux ouvrent rapidement la marque grâce à leur meilleur buteur Loïs Diony. Et en fin de match, après l'expulsion de Ben Youssef côté Canet, Pierrick Capel et Jean-Mathéo Baoya vont creuser l'écart en fin de partie donc pour parachever ce succès glané 3-0. Les gars, c'est on commence vraiment à croire de belles choses pour la fin de saison du SCO.
C'est sûr que ça, c'est incroyable de voir le SCO aussi haut. On le dit toutes les semaines, mais c'est toujours aussi étonnant après la saison de l'année dernière de les voir si bien jouer. Et après pour la montée, moi je suis toujours un peu sceptique parce que j'ai pas vraiment envie que le SCO commence à faire la navette, à monter en Ligue 1, redescendre en Ligue 2. C'est ça. Et je sais pas si c'est vraiment une bonne idée pour le SCO de jouer la montée, même si ça ferait plaisir à tout le monde.
En tout cas, il faudrait de la, je pense qu'on en a déjà parlé dans l'émission, mais il faudrait de la continuité en tout
c'est
cas.
Ça
c'est important. Évidemment, la continuité dans le projet, je veux dire, par rapport à un recrutement qui vaudra une équipe de Ligue 1. Et qu'il faudra que les investissements suivent derrière. Toi, Faustin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es optimiste ou tu gardes des réserves?
Franchement, c'est même dans la manière dont ils jouent. Est-ce que j'ai pu voir le match d'hier? Tout est maîtrisé. J'ai l'impression que c'est ce qui ressort de pas mal de matchs. Même quand on perd, je pense au match contre Saint-Etienne, on avait perdu, où c'était quand même un super match. Je pense qu'on a de quoi être plutôt enthousiaste envers l'avenir du SCO. En tout cas, pour cette saison. La montée, on y pense forcément. On y croit aussi, mais peut-être un peu moins. Mais en tout cas, c'est une très belle saison qu'ils sont en train de faire. J'espère que ça va continuer comme ça après les trêves de Noël, etc.
Et oui, on espère parce que évidemment cette montée pourrait quand même faire du bien au club après plusieurs saisons assez compliquées du côté de la Ligue 1. On suivra ça évidemment, vous en avez l'habitude, mais ça fait du bien de parler de victoire quand on parle du SCO parce que l'année dernière c'était pas facile. On va passer au basket, Faustin, avec donc les résultats de Cholet, de l'EAB et ainsi que l'UFAB. Je vais te laisser commencer. Par quoi tu débutes?
J'ai commencé par les hommes angevins de l'EAB qui enchaînent leur deuxième victoire d'affilée. Cette fois, c'était contre Denain sur le score de 63-59. C'est une très bonne réponse face à la série de cinq défaites, des matchs précédents. En espérant que ça continue comme ça. Ils sont donc à 3 victoires pour 6 défaites. Ça reste pas glorieux, mais c'est déjà mieux. Pour l'UFAB maintenant, elles ont démarré la semaine mercredi dernier avec une défaite en Eurocoupe sur le score de 74-62 contre Galatasaray. Les Angevines avaient un effectif réduit mais se sont quand même bien battues. Le seul scénario dans lequel elles ne seront pas qualifiées pour le prochain tour de Coupe d'Europe, c'est si elles perdent demain soir contre Constanta. Constanta qui n'a pas gagné un match de cette phase de poule et que le Kirbistis gagne de plus de 100 points contre Galatasaray.
100 points?
Ouais, 100 points d'écart. Et que les Angevines perdent 200 points aussi.
Ah d'accord, bon.
Donc ça reste
Marius,
probable.
Tu penses que ce scénario est envisageable?
Alors, je ne le souhaite pas, c'est ça. Le sport réserve des surprises. Après, je pense qu'on a le goal average sur Kirbistis, donc je pense que même en...
C'est ce qu'il c'est dit. C'est pour ça justement qu'il faut qu'il y ait...
Ouais, mais goal average particulier.
D'accord. Okay. Oui, c'est
je
vrai.
Pense que même dans un scénario catastrophe comme ça devrait passer quand même. J'espère.
Voilà. Donc, on espère.
En gros, elles sont qualifiées pour le voilà. prochain tour. Leur deuxième match de la semaine, c'était contre Bourges. Et les Angevines ont là aussi perdu sur le score de 79 à 59. Et elles jouent donc, comme j'ai dit, demain contre Constanta pour le dernier match de cette première phase de Coupe d'Europe. Du côté de Cholet maintenant, ils ont aussi joué en Coupe d'Europe et ont perdu, c'était contre Riga. C'est dommage parce que Riga c'était les derniers de leur poule qui n'avaient pas gagné un match. Et pour le moment les Choletais ils sont deuxième mais à égalité avec le troisième qui vont rentrer mardi prochain pour se qualifier. Donc voilà, le vainqueur de ce match sera qualifié pour le prochain tour de Coupe d'Europe aussi. Ils ont ensuite joué en Betclic Elite contre Saint-Quentin et ils ont là aussi perdu sur le score de 75 à 60 et ils jouent ce soir contre Dunkerque à 21h.
Merci Faustin pour ce point basket. Évidemment, on parlera de toute l'actualité autour de l'UFAB avec notre invité Marius Blanchard. On va passer maintenant aux autres actualités locales avec le SCO Handball. Cette fois, après deux matchs sans défaite, les SCOistes recevaient au Hara un gros morceau du championnat de Pro League. Et en effet, Ponto Combo, un des candidats à la montée en première division, se déplaçait en terres angevines pour conserver son invincibilité, qui dure d'ailleurs depuis le début de saison. Bien dans l'entame de match, les Angevins vont faire jeu égal avec les Dauphins de Pro League jusqu'au premier quart d'heure de jeu. Ensuite, les Franciliens vont prendre les devants dans cette partie et ne jamais lâcher les rênes du match. Après une deuxième mi-temps à sens unique, les joueurs d'Issam Tech s'inclineront finalement 29 à 24. Cette cinquième défaite de la saison n'aura pas de conséquences graves au classement pour le club angevin qui conserve tout de même donc 5 points d'avance sur la zone de relégation. On va parler maintenant hockey avec nos Ducs. Semaine assez légère pour les Ducs d'Angers qui n'ont participé qu'à une seule rencontre de Ligue Magnus sur les 7 derniers jours. C'était vendredi soir à la Ice Park contre les Gothiques d'Amiens, une victoire 7 buts à 3 avec 4 buts inscrits dès le premier tiers-temps. Et puis au retour de ce fameux premier tiers-temps, Amiens qui revient à 4-2 assez rapidement, mais les Angevins vont reprendre de l'avance et donc terminer avec un avantage de 4 buts. À noter également sur les actualités du club récentes, c'est la suspension de le leader un peu de cette équipe, Robin Gabory, qui va être suspendu pour une durée de 6 matchs. Les Ducs d'Angers qui perdent, on peut le dire, l'un de leurs meilleurs joueurs même leur capitaine évidemment sur les 6 prochains matchs. Il avait notamment été sanctionné d'une charge à la tête contre Marseille il y a quelques matchs de ça, et donc Robin Gabory qui va être un petit peu écarté des patinoires pendant un petit temps. Pour le calendrier, on va retrouver donc l'Éduc un petit peu plus tard, donc ce sera vendredi à 20h contre Rouen, donc un gros match, un classique de ce championnat de Ligue Magnus. Et puis deux jours plus tard, on aura une réception des Pionniers de Chamonix, justement à l'Ice Park. Ce sera à 16h30, voilà, pour ceux qui veulent y aller. Match des Ducs d'Angers prévu.
Et il faut rappeler aussi qu'ils jouent ce soir contre Dunkerque en quart de finale de Coupe de France.
Évidemment.
Et il y a toujours 0-0.
Donc le match a commencé.
Oui.
Tu vas nous remplacer Cédric et nous faire des breaking news. Et très bien, c'est sympa.
Et aussi, ils sont égalité maintenant avec Rouen.
Oui, au classement.
Oui.
C'est ça. Donc ça va être intéressant de savoir si les Ducs vont pouvoir battre leur concurrent direct à cette première place de saison régulière. On va passer au sport international maintenant avec la Ligue 1 et les résultats du week-end. Une journée qui a vu un petit peu plus de buts inscrits que sur les dernières journées qui avaient été un peu décevantes, un peu décriées d'ailleurs en termes de spectacle. Ça a démarré très fort avec cette victoire 5-2 du PSG contre Monaco. Un match plutôt intéressant entre deux belles équipes. Ensuite, le samedi, c'est Lens qui s'est imposé sur la pelouse de Clermont 3-0. Match nul un partout entre Strasbourg et Marseille le samedi. Et puis dimanche, le Dauphin niçois qui s'est imposé 1-0 contre Toulouse. Lors du multiplex, Brest s'est imposé à Montpellier 3-1. Belle opération également pour Metz qui l'emporte contre Lorient 3-2. Match nul 0-0 entre Nantes et Le Havre. Rennes s'est relancé avec l'arrivée de Julien Stéphan sur son banc avec cette victoire 3-1 contre Reims. Et puis dans le match du dimanche soir, c'est à Lille qui s'est imposé 2-0 du côté de Lyon. Voilà, Lyon qui reste lanterne rouge de ce championnat de Ligue 1. Ce soir, puisque le foot n'est jamais fini, ce soir on continue avec la Ligue des Champions et donc une plutôt belle soirée, de belles affiches avec donc le PSG qui affronte Newcastle, qui reçoit Newcastle. Clément, tu donneras les compos notamment du Paris Saint-Germain. Mais pour les autres belles affiches, on pourra avoir le FC Barcelone qui reçoit Porto, Manchester City qui accueille Leipzig, et puis Milan Dortmund dans le groupe du Paris Saint-Germain. Donc Clément, dis-nous un petit peu qu'est-ce que Luis Enrique nous a concocté pour ce soir.
Il nous a fait du classique, hormis l'absence de Warren Zaïre-Emery. Donc on retrouve Donnarumma dans les cages, une défense à 4 avec Skriniar, Danilo Pereira dans l'axe, Hernandez et Hakimi sur les côtés. Ugarte, un milieu à 3 avec Ugarte, Kangli et Fabian Ruiz. Et en attaque, une attaque classique, Dembélé, Kolumani, Mbappé. J'avais pas vu l'absence de Marquinhos qui est aussi
qui est blessé.
Oui, important.
Tout comme Warren Zaïre-Emery.
C'est ça. Et du côté de Newcastle, on retrouve un 4-3-3 tout comme le PSG avec Pop au goal, Fabian Schär et Lascelles en défense centrale, Kieran Trippier et Livramento sur les côtés, un milieu avec Guimarães, Miley et Joe Linton. Et une attaque Almiron, Isaac et Gordon.
Donc voilà pour la compo du PSG pour ce soir. Demain, on aura le droit également à de belles affiches, toujours. Galatasaray, Manchester United, hein, ça va être important pour savoir qui va se qualifier dans ce groupe où figure également le Bayern. Arsenal Lens, et oui, le match aller avait fait beaucoup parler avec cette victoire lensoise. Maintenant, le déplacement à l'Emirates, pardon, pas à l'Etihad, à l'Emirates va être peut-être plus délicat. On verra bien ça demain. Et puis un très beau Real Madrid contre Naples et un remake du quart de finale de l'année dernière, Benfica Inter Milan. Voilà pour la Ligue des Champions. Rapidement peut-être les pronos. Messieurs,
même si
sur les clubs,
bon.
Évidemment, toujours, c'est une tradition. Il ne faut pas être bon dans cette émission. Par rapport au match des clubs français, victoire du PSG ce soir ou il faut s'inquiéter.
Quand même, on espère une victoire du PSG parce que sinon le PSG c'est un petit peu mal. Je vais dire un petit 3-0 pour le PSG qui continue dans la lancée.
Je serais peut-être pas aussi optimiste, même si je vois bien au moins un but de Dembélé qui a débloqué enfin son compteur. Je vois bien aller 2-1 pour le PSG.
2-1 pour le PSG.
Et pour Lens, d'habitude, j'ai l'habitude d'être optimiste envers les Lensois. Là, j'irais plus sur une défaite 2-0.
À Arsenal, ça va être compliqué. Clément. Je dirais, allez, au maximum un nul, un partout, sinon... Okay. 3-0, ils vont perdre.
Ah d'accord, ok. Bon bah, au moins, tu t'offres tous les scénarios possibles.
Ouais, c'est ça.
Moi, je veux pas faire Lens, parce que Lens, la dernière fois, j'avais prévu une défaite.
Oui.
Alors que je vois Lens se qualifier en 8e, donc je vais rien dire. Mais bon, ça sent pas très bon. On verra bien ce qui se passe du côté de Lens. On leur souhaite évidemment de gagner. Et puis pour le PSG, je pense que ça va le faire du côté du Parc des Princes.
Même pas un score.
Un score, allez, un petit 2-0 quand même. Pas d'enflammade, un petit 2-0 tranquille avec voilà des buts d'Mbappé, je sais pas, Colomoigny, pourquoi pas. Voilà un peu pour
le cas de défaite de l'AC Milan, le PSG sera qualifié. Enfin, victoire du PSG et défaite de l'AC Milan, le PSG est qualifié.
Mais il faut falloir gagner pour le PSG parce qu'ils sont pas forcément forcément confortables dans cette poule.
C'est ça.
Surtout que il y a des gros adversaires en face. Faustin, c'est la minute basket, j'ai envie de dire.
Ouais.
De quoi tu veux nous parler cette semaine ?
En NBA, je vais vous faire un petit point sur Wemby aussi. Toujours, toutes les semaines, finalement. Il continue de faire de bonnes perfs personnelles, mais a toujours quand même des petits problèmes de pourcentage au shoot, dû sûrement au mauvais service de ses coéquipiers, on va dire. Son équipe, il continue aussi de sombrer avec seulement 3 victoires pour 14 défaites. C'est énorme. Ils sont derniers de leur conférence. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, faut que Wemby continue de se développer. Une autre équipe qui va mal en ce moment, c'est Washington. Ils sont avant-derniers avec un bilan de 3 victoires pour 14 défaites eux aussi. Le gros problème de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de réel leader. Parce que, n'en déplaise aux fans des Wizards, ni Jordan Poole, ni Kyle Kuzma ne sont non les épaules de leader. Et c'est ce qu'on voit dans le jeu où les deux tentent de prendre les choses en main, mais ça ne fonctionne pas. Le bon point, j'ai envie de dire, dans cette équipe, c'est qu'un peu à la manière des Spurs, ça laisse toute la place à Bilal Koulibaly, notre deuxième rookie français, qui était l'ancien coéquipier de Victor Wembanyama au Mets. Actuellement, il joue dans le rôle de sixième homme dans cette équipe. Il a en temps de jeu à environ 25 minutes par match et apporte surtout en défense dans son équipe. Il tourne à une interception de moyenne, ce qui est vraiment pas mal pour un rookie en tout cas, et seulement 8 points, mais au vu de son rôle offensif, c'est pas mal aussi. Donc bon, même si l'équipe sombre un peu en ce moment, on espère que ça va permettre à Bilal de bien se développer un peu à la manière de Wemby, et pourquoi pas voir nos deux Frenchies devenir potentiellement des futurs superstars de la NBA.
Et pourquoi pas. Mais c'est intéressant ce point sur les autres Français, et notamment le jeune Français, les rookies français. Ça va être intéressant de voir effectivement son développement. Mais oui, c'est vrai que je me pose la question, je me mets à la place de Wembanyama. Alors évidemment, c'est pas forcément lui qui maîtrise tout, mais c'est vrai que ça va être frustrant de se dire allez, c'est ma première saison et je joue même pas les playoffs, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Bon là, je sais pas s'il tanque encore une saison de plus, mais
je pense que
est-ce qu'il subit ce...
Ah, clairement oui.
Ouais, il subit un peu. C'était pas prévu à ce point-là.
Je pense pas, non. Mais Greg Popovich, le coach du coup des Spurs, il essaye un peu de donner l'occasion aux joueurs de se débrouiller par eux-mêmes. Ce qui est pas forcément une super idée, même si ça peut justement les aider à se développer plus vite que les autres jeunes, parce que c'est une équipe aussi constituée que de jeunes. Hein, c'est ça, c'est un des gros problèmes, sans réel meneur, etc. Et Greg Popovich les laisse un peu se débrouiller. Et c'est peut-être là que ça fait défaut, où ils ont du mal à se trouver. On voit, franchement, c'est dingue quand on regarde les matchs des Spurs, le nombre de fois où Victor, il est tout seul sous le cercle, avec ses 2m24, je sais pas combien il fait, les bras levés, mais ça doit être énorme, et on le fait pas à la passe. C'est des choses qui se voient beaucoup à l'écran, peut-être un peu moins pour les joueurs sur le terrain, mais à mon avis, c'est un taf qui doit être fait derrière, entre les matchs, et qui est peut-être mal fait, parce que le coach fait exprès de les faire réagir seul, quoi.
Bon. On verra pour la saison de Wemby, on suivra ça de près. On va enchaîner avec les dernières infos sport. On va commencer par le tennis. Et la saison de tennis n'était pas forcément finie avec ce week-end les demi-finales et finales de Coupe Davis. Et on avait un dernier carré entre la Finlande, l'Australie, l'Italie et la Serbie qui a été défaite face aux Italiens, et les Italiens qui l'ont emporté en finale 2-0 face à l'Australie avec un très grand Yannick Sinner. Au niveau du biathlon, puisque la Coupe du Monde a repris cette semaine, donc ce week-end notamment, du côté d'Östersund, on a comme résultat notamment la France qui a dominé le relais mixte, mais également donc une troisième place dans le mixte simple. Donc voilà, on a quelques résultats par-ci par-là, mais voilà, l'information c'est que la Coupe du Monde de biathlon a repris ses droits, et on suivra ça évidemment de près dans l'émission. On va faire un petit point Formule 1, même si Cédric n'est pas forcément là. D'un autre côté, les infos ne changent pas forcément chaque semaine, puisqu'on a Verstappen qui a encore gagné pour changer un petit peu. D'ailleurs, c'était le dernier Grand Prix de la saison, hein. C'est donc le Hollandais qui l'a emporté pour la 19e fois, il me semble.
Sur 22 possibles.
Il y a que du coup 3
Perez et Sainz qui ont.
Voilà, et donc 2 autres pilotes seulement qui l'ont emporté au cours de cette saison. Ça a été bon, le suspense n'a pas été grandiose. Cédric nous a quand même tout au long de l'année dit qu'il y avait des choses à dire à chaque fois, donc tant mieux pour les passionnés de Formule 1, mais c'est vrai que le suspense n'était pas forcément au rendez-vous comme c'était le cas il y a 2 ans avec ce mano à mano avec Hamilton, mais voilà, le suspense qui a été tué rapidement, et donc voilà, Verstappen qui s'impose de nouveau du côté d'Abu Dhabi avec sur le podium on va retrouver Charles Leclerc et George Russell. Et puis enfin, on termine par un petit point balle avant de passer à la pause musicale. Le Paris Saint-Germain qui est en difficulté en Ligue des Champions. Les Parisiens qui, depuis plusieurs saisons, sont habitués à terminer aux 2 premières places de leur poule. Cette fois-ci, c'est plus compliqué cette saison, avec donc une 5e place après 8 matchs disputés. Les Parisiens qui ont chuté de nouveau face à Kolstadt. Ils ont fait match nul 28 partout face à Kolstadt à domicile, le club norvégien. Donc voilà, c'est assez compliqué pour les Parisiens qui vont sûrement devoir passer par la phase des 8e de finale. Voilà pour les informations.
Peut-être une petite dernière info foot encore une fois, nos Français U17 qui sont en finale de Coupe du Monde,
effectivement,
qui l'ont emporté 2-1 face au Mali ce midi et qui sont donc en finale. J'aurais bien aimé être à leur place vu que j'ai leur âge, mais bon.
T'as pas été sélectionné?
Non, malheureusement.
C'est bizarre. Bon, on en reparlera peut-être pour la prochaine.
Si jamais ils gagnent.
Bon, voilà un petit peu pour ce petit point sport. On va maintenant passer à la pause musicale et puis on sera tout de suite de retour pour l'interview. On va s'écouter Nocif de Hamza et Damso, puis on se retrouve juste après. Baby, 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 baby. J'ai câblé pour toi, sans intérêt. Ne demande pas pourquoi, ce soir j'ignore. Tu fumes la zaza, un tas de tourments qui me suivront pour le reste de ma life. Ça l'avait dangereux et se consomme comme une drogue. La première fois qu'on s'est vu, c'était nasty dans la loge. J'aime beaucoup ton approche. Mais tu sais que j'aime que les loving. Mon cœur est codé, non. Mais qu'à toi, j'ai encore t'expliquer. Qui pourrait éclaircir ce mystère que t'entretiens autour de moi. La nuit nous appartient, mais tu veux continuer jusqu'à tout déchirer. J'ai câblé pour toi, sans intérêt. Ne demande pas pourquoi, ce soir j'ignore. J'fume la zaza, un tas de tourments qui me suivent et qui me suivront pour le reste de ma life.
Oh, na 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 na, attaque un grand pays sur moi. J'te préviens, fuck ça. que je passe qu'on dit, des fois que je m'ennuie. Tant que je regarde tout de la night. Tout de la night. Tant que je regarde tout de la night. Tout de la night.
Hamza et Damso pour leur titre Nocif sur Radio G. On est toujours donc depuis le 101.5 FM ou bien sur le site internet de la radio www.radio-g.fr. J'en profite pour remercier nos auditeurs puisqu'il y a deux semaines de cela apparemment on a fait des très belles audiences. Donc merci à tous d'avoir suivi. Peut-être qu'on va remercier particulièrement
le club
de l'ASA de nous avoir écouté sur les ondes. Voilà, ça fait toujours plaisir de se faire écouter comme ça.
J'ai moi-même eu de très bons retours de
personnes parfait. Qui avaient écouté. Et puis j'ai envie de dire, c'est normal qu'ils te les fassent toi, puisque c'est toi qui as géré l'interview de main de maître. Donc voilà. On est donc de retour dans Génération Sport jusqu'à 21h avec Marius Blanchard, assistant coach de l'UFAB 49, qui est donc notre invité ce soir. Marius, donc déjà je vais le présenter un peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Tu es nouveau au club, hein, t'es arrivé donc cet été. Tu as 25 ans si je dis pas de bêtises. Originaire de Vendée. C'est
bien,
ça.
Pour on en sens. Parle déjà, c'est très bien.
C'est ça. Donc une carrière d'entraîneur où t'es passé notamment par Chantonnay, Bouaille et Rezé sur ta dernière expérience qui évolue en N1. Et donc voilà un bon petit niveau qui était dans l'F2 d'ailleurs il y a quelques années.
En fait les deux clubs de Rezé ont fusionné.
C'est ça ouais. C'est ça.
Suite à de longues péripéties.
Ouais, c'était compliqué.
Les déferlantes.
C'est ouais, ça, c'est ça. C'est ils ont fusionné pour donner ce club.
C'est ça.
Très bien. T'es arrivé donc cet été. On va revenir quand même d'abord sur ta carrière d'entraîneur. Tout simplement, d'où t'es venu un peu cette vocation pour le coaching en particulier.
Le coaching en particulier, je pense que ça permettait de faire du basket à une échelle un petit peu différente que sur le terrain. Alors j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer, notamment à Chantonnay. Et en fait, moi, mon père est entraîneur aussi.
Ouais.
Était entraîneur à Chantonnay, c'est avec lui que j'ai commencé à jouer, mais aussi à entraîner.
Okay.
Et j'ai très vite pris beaucoup de plaisir dans cette pratique-là, en fait, où l'idée c'est simplement d'essayer de faire vivre un collectif autour d'un projet commun, et le coach s'efface progressivement au bénéfice de l'équipe, et c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans les relations humaines, et de pouvoir faire de l'humain avec cette entrée-là que peut être le basket, ça m'a tout de suite passionné. Et après, progressivement, de fil en aiguille, je me suis dit que je me voyais bien faire de cette activité-là mon métier. Donc, ça s'est poursuivi un petit peu comme ça.
Et du coup, tu as peut-être un peu répondu à la question déjà, mais du coup, ta passion pour le basket en soi, j'imagine que c'est ton père qui t'a un peu mis le pied à l'étrier.
Ouais, alors, pas directement, parce que forcément, comme tous les petits garçons au début, on se met aussi un petit peu en confrontation avec son père, donc j'ai pas commencé par le basket, mais assez vite j'y suis revenu. Et en fait, moi j'ai une famille de basketteurs, que ce soit frères et sœurs, ma mère, tout le monde est dans le basket depuis tout petit, donc voilà, c'est clair que ça forge un petit peu un goût pour l'activité. Et après, c'est comme tout, plus on pratique et plus c'est intéressant et plus ça nous plaît et plus on y voit quelque chose en plus, et voilà, on se prend au jeu un petit peu.
Et tu parlais de ton passé de joueur, tu as pu évoluer à quel niveau?
Alors j'ai joué jusqu'en R3, garçon.
Okay.
Donc voilà, mais je me suis arrêté très vite parce que ça devenait plus compatible avec le coaching.
Ouais.
Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancé un petit peu plus dans le coaching, c'est que j'étais dépassé par ce que je voyais et ce qu'il fallait faire et mes capacités d'athlète qui sont un peu limitées. Donc voilà, je suis passé sur cet aspect-là du terrain.
Par rapport, donc t'as pu faire notamment, je crois, des études de STAPS,
oui.
Pour un peu développer justement cet aspect d'entraîneur. Comment t'as franchi ces étapes au cours de ta carrière? Parce que on lisait, tu commences dans ton club, donc en Vendée. Ensuite, tu pars à Bois et je crois qu'elle joue actuellement en N2, par exemple. Mmh. Puis après N1. Comment justement t'as réussi à franchir ces étapes petit à petit et te retrouver aujourd'hui à 25 ans dans une équipe professionnelle?
Bon, il y a plusieurs choses. La première, c'est forcément le STAPS. Effectivement, j'ai commencé à l'IFEPSA à Angers,
ouais.
où j'ai fait 2 ans, et après je suis allé finir ce cursus-là à Nantes, parce que pour avoir la spécialité sur l'entraînement sportif et un petit peu plus cet accès de terrain-là. Et en fait, moi, ça a été très vite par les stages, donc auprès de Cholet Basket, auprès de l'EAB aussi avec Laurent Buffard, et auprès du club des Sables d'Olonne. Et en fait, progressivement, en découvrant un petit peu ce métier-là, ça m'intéressait. J'ai tout de suite vu que, voilà, bah, parler de basket toute la journée, en passant du temps au bureau et en préparant les entraînements, et en essayant de se creuser la tête pour performer au plus haut niveau possible, tout en impliquant les joueuses et les joueurs dans ce projet-là, ça m'intéressait. Donc l'idée après derrière, c'était de réfléchir un petit peu à comment pouvoir progresser, et pour ça l'aspect des formations de la fédération m'a pas mal aidé. Donc voilà, les diplômes habituels, le CQP et les formations, et après c'est de rencontre en rencontre. En fait, du coup, en sortie de licence, je cherchais un poste sur Nantes.
Okay.
Donc sur ma dernière année de licence, j'ai fait un service civique dans le club de Bouaille, justement,
okay.
où je coachais la RF1 et j'étais assistant sur l'équipe de NF3 pendant 2 ans. Et en fait, après, le club souhaitait me garder, mais pouvait pas avoir les moyens d'avoir un temps complet. Donc, ils m'ont proposé un mi-temps, en proposant un mi-temps aussi au BCSP, Rosé,
okay.
pour essayer de construire un poste un petit peu en commun, donc ce qui me plaisait. Après, comme c'était les années Covid, je pouvais moins entraîner, mais du coup, ça m'a ouvert un peu des portes sur l'équipe de Ligue 2, qui était au BCSP okay. Rosé à l'époque. Donc, pour apprendre, hein, clairement, dans une position de d'observateur au début, et après, progressivement, d'amener des choses sur moi, ce qui peuvent être un peu mes appétences, donc la vidéo, les statistiques et cet aspect un petit peu plus décalé du terrain, parce qu'en n'ayant pas d'expérience. De joueurs de haut niveau, forcément, on apprend plus et des chiffres et de l'analyse un petit peu. Donc voilà, et puis derrière le club, les expériences avec le BCSP, même si elles n'ont pas été simples, elles m'ont forgé, m'ont permis derrière de pouvoir faire l'assistanat de la NF1 l'année dernière et de passer mon diplôme d'État. Et suite au diplôme d'État, en fait, c'est le réseau qui a beaucoup joué, mais en fait, on connaissait beaucoup de monde en commun avec Aurélie.
Ouais.
Donc j'ai su qu'elle cherchait quelqu'un et elle a su que je cherchais un poste, donc on s'est mis en relation comme ça. Les entretiens qu'on a pu faire se sont très bien passés, parce qu'on partageait vraiment la même vision du basket et les mêmes valeurs humaines, et ça a cliqué très très vite. Donc voilà, elle m'a fait confiance, on a pu se lancer tous les deux, donc c'est comme ça un petit peu que j'ai pu arriver dans ce club de l'UFAB qui est très ambitieux, mais en même temps a une valeur vraiment familiale et de simplicité qui, moi, me parle, parce que c'est ce que je mets aussi derrière le sport, de cet aspect vraiment humain et fédérateur des gens. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement.
Ok. On l'a vu, tu as quand même un peu vadrouillé, mais dans la région, c'était important pour toi de rester un peu justement proche des Pays de la Loire, on va dire.
Alors, important, oui, parce que je suis attaché à cette région, c'est sûr.
Ouais.
Après, je pense que ça s'explique aussi du réseau qu'on construit.
Ouais.
Le réseau fait aujourd'hui beaucoup dans le haut niveau. Après, le réseau, c'est pas forcément du pistonnage, c'est juste des gens qui peuvent valider le fait que les gens travaillent ou pas.
Ouais, c'est ça, oui.
Et en fait, forcément, les gens avec qui j'ai pu travailler dans les Pays de la Loire, derrière, connaissent des gens dans les Pays de la Loire. Et en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement comme ça. Je pense que j'aurais pu me laisser tenter par un départ un petit peu plus loin, mais je suis très content de rester près de mes proches, près de mes amis, près de d'une belle région. Donc
c'est ça, très gagnant-gagnant, j'ai envie de dire.
C'est ça, exactement.
Excuse-moi de te couper. Oui. On a une petite breaking, comme dirait Cédric. C'est le but de Phil Allais pour les Ducs d'Angers. Donc le SCO mène 1-0 face à Dunkerque.
Très bien, merci Clément pour ce petit point sur l'éduc. Donc on disait, tu as déjà un peu parlé de ton arrivée donc à l'UFAB, mais est-ce que c'était plus, quand ça se passe comme ça, est-ce que c'est un choix plus de la coach de te choisir ou c'est plus le président, le club dans sa globalité qui vient vers toi? Comment ça se passe?
Alors ça dépend des clubs. La plupart du temps, quand même, c'est le coach qui choisit son assistant.
Ouais, ok.
Parce que voilà, c'est normal, c'est la personne avec qui enfin moi, c'est la personne que je vois le plus.
Oui, c'est ça. C'est une collègue de travail.
Actuellement, ouais, ben en fait, c'est même plus que ça parce qu'on a quand même un travail qui.
Bah oui, qui est très prenant.
Qui prend pas de pause, donc on se voit beaucoup. C'est important que ça matche sportivement et dans le travail. Après, ce qui s'est passé forcément, c'est que la coach est soumise aussi au choix des dirigeants. Donc moi, j'ai rencontré Brito De Souza, le président,
ouais.
quand je suis venu faire mon entretien à Angers. Et voilà, après, c'est tous les deux qui ont pris cette décision, avec aussi, j'imagine, le comité exécutif, ouais. Et le directeur.
Et ça a été quoi un peu tes arguments? Qu'est-ce qui, à ton avis, leur a plu dans ton profil? En plus de cette bonne entente avec Aurélie Bonan.
Ouais, au-delà de la bonne entente, je pense qu'elle s'est assurée auprès des personnes avec qui j'ai travaillé qu'on était dans les mêmes valeurs de travail. C'est vraiment ce qu'elle m'a dit parce que aujourd'hui, faut être clair. Moi, je suis arrivé sans avoir d'expérience de ligue féminine,
ouais.
Qui est quand même un niveau qui est vraiment différent de la Ligue 2 et de la NF1. Ça n'a rien à voir sur le que ce soit en termes de joueuses, en termes d'attente, en termes de niveau de détail et de complexité. Donc voilà, elle a quand même pris un pari important de prendre un rookie sur ce poste d'assistant, en tout cas un rookie de la ligue féminine. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, l'aspect analyse vidéo, ça a été un vrai argument, parce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans la façon dont on construit le staff.
Ouais.
Moi, j'ai la partie vidéo un petit peu plus, que ce soit dans la présentation des filles ou dans l'analyse avant match. Et après, derrière, c'est pour le coup, on co-construit les décisions qu'on va prendre ensemble. Donc, je pense que cet aspect-là a été important. Et après, bah, comme je disais, les valeurs de travail, de loyauté, que les gens avec qui j'avais pu travailler, je pense, avaient défendu. En tout cas, c'est ce que m'a dit Aurélie. Après, voilà, c'est toujours compliqué de savoir pourquoi elle a fait ce choix-là. Elle avait certainement d'autres options, mais voilà.
En tout cas, un bon entourage qui a bien parlé de toi, c'est ça.
Bah ouais, c'est bon, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner pour tous les gens qui veulent travailler dans le sport. C'est il faut que les gens autour. On sait jamais qui connaît qui, donc
c'est ça.
Il faut
donner le meilleur.
Faut travailler partout, c'est ça,
ouais,
tout le temps.
Du coup, tu en as déjà un peu parlé, mais concrètement, alors ton rôle, on le connaît, tu es assistant coach, mais comment ça se matérialise concrètement au quotidien, ton rôle pour l'équipe?
Ouais, alors aujourd'hui, on se partage le travail en plusieurs temps. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup sur le, pas comme peuvent l'être certaines équipes de plus jeunes catégories. Nous, on est beaucoup sur la préparation du match de l'échéance suivante.
Ouais.
Donc là, par exemple, cette semaine, sur une semaine à deux matchs, l'idée, c'est que à partir du lundi, moi, je puisse faire un rapport à la coach des forces et faiblesses des différentes équipes, mais aussi de voilà, pour, sans rentrer dans le détail, mais des systèmes et des formes de jeu qu'elles peuvent utiliser, en plus des joueuses qui sont là. Alors c'est compliqué d'essayer de dépasser Aurélie sur la connaissance, parce qu'elle connaît très 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 bien le championnat,
oui,
pour avoir joué longtemps et pour avoir coaché.
Oui.
Voilà, donc l'idée, c'est de lui apporter un œil un peu neuf et un complément d'information par rapport à ce qu'elle peut déjà savoir. Suite à ça, nous, on développe un plan d'entraînement sur la semaine. Donc en fonction de comment les joueuses sont présentes, comment les séances de musculation s'articulent, les soins, les matchs éventuels et tout ce qui peut se passer dans une semaine. Et derrière, suite à ce plan-là, on prend nos options sur les différents matchs, défensives, les options offensives, et on travaille un petit peu. Donc après, donc nous, c'est beaucoup de travail en amont de vidéos, du coup, pour faire de l'analyse sur... statistiquement, ce qui marche ou ce qui marche pas dans les différentes équipes, pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Et après, pendant les entraînements, moi, je suis souvent sur un rôle de prise en charge de la séance, donc le début, les échauffements.
Okay.
Après, ça peut arriver sur quelques séances collectives, même si c'est plutôt la partie d'Aurélie. Et après, on a tout un travail d'entraînement individuel de nous,
que ce soit des jeunes ou des moins jeunes joueuses d'ailleurs, où là on se répartit un petit peu plus le travail sur ces aspects-là. Et voilà, et on arrive assez vite au match du week-end où là, sur le banc, il y a aussi des choses à faire pour être en accompagnement du coaching et essayer de prendre les décisions ensemble, en commun, et de et de travailler ensemble sur le plan de jeu. Donc voilà.
Voilà tout ce que tu as à faire. C'est pas mal.
Petite semaine.
C'est beaucoup. Tu t'occupes beaucoup de la vidéo, utiliser des aspects tactiques. Mais est-ce que cette expérience peut aussi te permettre, tu penses, de profiter de cette expérience peut aussi te permettre d'apprendre à gérer un groupe? Parce que j'imagine que c'est quelque chose d'évidemment très différent, enfin les deux métiers de coach et coach principal et coach assistant. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose où tu apprends au quotidien aux côtés d'Aurélie pour gérer un groupe dans le management, dans la gestion des joueuses, etc.?
Ouais, bien sûr. Alors mes expériences d'avant l'ont fait aussi, parce que un poste d'assistant sur une équipe professionnelle, à part en ligue féminine, je parle dans le basket féminin, ça n'existe pas à plein temps. Donc moi j'ai tout le temps, en fait, dans les années d'avant, eu la double casquette, la casquette assistant sur une équipe et après la casquette coach sur l'autre. Voilà. Donc j'ai gardé cet aspect coaching et prise en charge d'un groupe. Ce qui est sûr, c'est que tous les coachs sont différents sur cette valeur de management-là. Mais comme dit souvent Aurélie, on est tous les managers quand on coach. À un moment, il faut être un peu plus participatif. À un moment, il faut être un petit peu plus directif et autoritaire. Ouais. Il faut trouver les moyens de parler à tout le monde et de garder toutes les joueuses investies dans le projet collectif. Donc être à côté d'Aurélie, qui non seulement est une coach de ligue féminine, mais aussi une ancienne joueuse professionnelle, forcément ça donne beaucoup de billes dans plein de choses.
Ouais.
Voilà, donc après on apprend forcément au quotidien, et on apprend aussi beaucoup des joueuses, des retours qu'elles peuvent nous faire et de comment elles se sentent et comment elles sont impliquées dans le projet. Donc oui, bien sûr.
Et donc bon, tu le disais. On est arrivé donc dans ton premier, on va dire, club professionnel. Comment ça se passe justement pour toi, ce changement de vie? Parce que voilà, tu passes de Rezé, etc. Comment ça se passe pour toi d'être direct dans le grand bain tout de suite? Comment t'as géré cette transition là?
Ouais, alors ça se passe plutôt bien. C'est très intéressant. D'une manière différente de Rezé, où, comme je le disais, il y avait plusieurs casquettes à endosser. Là, on est focus sur une mission, donc gagner le plus de matchs possible. C'est clairement la mission dans le basket pro, en n'oubliant pas de faire vivre aussi le groupe avec les valeurs qui sont importantes pour nous. Donc après, ce qu'il faut réussir à faire, c'est très très vite d'enchaîner, et le rythme est différent, ça c'est sûr. Donc c'est plus une transition au niveau du rythme que de la charge de travail. Là, en fait, nous, clairement, en jouant deux matchs par semaine, il faut enchaîner. Là, on vient de perdre à Bourges dimanche. Eh bien, lundi, il faut retourner au travail tôt, jusqu'à tard, pour fournir la charge de travail qui est nécessaire à ce qu'on prépare au mieux les matchs. Donc après, la transition, elle se fait bien, parce que voilà, on a l'habitude de travailler pendant la saison. Il n'y a pas de débat sur ça. Par contre, c'est clair qu'il a fallu se mettre aussi dans des exigences différentes.
Ouais.
Parce que le haut niveau, c'est exigeant, ça demande du détail, ça demande de la précision, ça demande aussi de la réflexion et de faire les bons choix. Donc ça, c'est toujours un petit peu plus stressant, mais moi, ma relation avec le stress, elle se passe plutôt bien. L'idée, c'est de mettre l'exigence avant que le match arrive, et si on a fait ce travail-là de la meilleure des façons... Après, ce qui se passe pendant le match, c'est toujours un peu plus, ben voilà, les aléas du sport, et on gagnera pas tous les matchs, et voilà, Bourges chez elle aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller les chercher.
Évidemment.
Mais voilà, la transition, elle se fait bien, parce que ça reste le même travail poussé à un degré d'exigence et de perfection qui est différent. Donc voilà, il y a encore des heures à passer, de la vidéo à regarder.
Avant de passer à ce qui se passe sur cette saison, Faustin, est-ce que tu as une question à poser à notre invité?
Ouais, moi je me demandais sur justement l'analyse vidéo. Tu penses que pour un match, en moyenne, vous passez toi et l'équipe combien d'heures à analyser, enfin à faire de l'analyse vidéo pour un match classique?
Alors en termes d'heures, j'aurais du mal à à le définir. Ce qui est sûr, c'est que moi, je regarde tous les matchs, enfin les trois derniers matchs de l'équipe qu'on joue au moins deux fois. Donc déjà, ça te donne une idée un petit peu du nombre de matchs. Pour certains matchs un peu plus particuliers, un peu plus charnières, ou dans lesquels on a un petit peu plus de temps, par exemple les matchs où les semaines où on n'a qu'un match par semaine, par exemple, là, on peut monter à quatre ou cinq matchs. Ça dépend. Et après, l'idée, c'est aussi de revoir, de passer un petit peu plus loin sur les aspects individuels des joueuses. Donc voilà, il y a encore du travail à faire sur ça. Et après, une fois que tous les matchs sont découpés, en fait, on découpe les matchs sur différents types d'actions spécifiques. Donc il faut revoir l'analyse une troisième fois pour faire une synthèse qui convienne le mieux pour les joueuses et la coach. Donc par match, je dirais que c'est entre une dizaine et une vingtaine d'heures, je pense. Ça dépend des matchs, mais voilà, à peu près.
Oui, quand même.
On va parler un petit peu de cette saison de l'UFAB. Avant ça, je tiens à saluer Cédric qui nous a rejoint. Et oui, la surprise du chef. Il arrive à 10 minutes de la fin.
Dans le main event de la soirée.
C'est ça, dans le temps additionnel, j'ai envie de dire.
Non, mais c'est pas générique aujourd'hui.
Non, tu t'es trompé.
Ah non, c'était pas aujourd'hui qu'on parlait de cinéma et tout.
Non, là, c'est que du sport. C'est l'UFAB.
Ah, c'est pour ça que je me suis trompé en fait deux jours pour aller au ciné et tout.
C'est ça. Bon, bref. Cédric, bienvenue. Tu prendras en route.
Ouais, de toute façon, j'ai écouté un petit peu en sortant du...
J'espère que ça se passe bien, en tout cas.
Ouais, écoute.
T'as entendu nos belles audiences il y a deux semaines?
Ah non, ça, j'ai pas entendu. J'étais encore dans la salle. Je suis sorti, il était la nuit, donc...
Apparemment, on a fait des belles audiences sur l'émission avec Frédéric Cosset. Je reviens vers toi, Marius. Cette saison, elle se passe un peu délicatement du côté du championnat, avec donc 6 défaites et 2 victoires. Pour l'instant, donc... on sait que provisoire, mais on est dans le top,
le top 4. Attention à ce que tu dis.
Non, enfin dans les play-down, voilà, dans les places voilà. Des play-down. Ouais. Bon, c'est que provisoire, évidemment, ça a vocation à évoluer. Je me posais la question parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu le calendrier, il y a beaucoup de grosses équipes quand même qui ont été affrontées par l'UFAB. Est-ce que pour toi, c'est du coup quelque chose qui est assez trompeur par rapport qui peut s'avérer trompeur par rapport au résultat et par rapport à ce que donne l'équipe.
Ouais, trompeur, je pense que si on regarde que les classements des équipes, surtout dans le sport collectif, si on regarde le classement à un instant T, c'est jamais révélateur de la performance de l'équipe. Faut essayer de mettre du contexte là-dedans. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les défaites contre des équipes comme Villeneuve, Basketland, Bourges, l'Asvel, voilà, c'est des défaites qui sont pas logiques parce que on déteste tous perdre, oui. Et on veut gagner tous les matchs, mais à la fin du compte, c'est des équipes qui sont aujourd'hui dans la structure, dans le budget, ce qui peut être développé, qui forcément sont plus difficiles à aller chercher.
Ouais.
Donc il y a vraiment dans cette LFB un championnat qui est un peu séparé en deux, clairement.
Ouais, on l'a vu d'ailleurs la saison dernière, hein, clairement.
Ouais, bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a un gros mois de décembre, notamment avec le déplacement à La Roche dès dimanche, qui va vraiment compter cher pour ouais. Les play-downs. Mais comme l'année dernière, c'est un championnat qui est hyper dense, qui va se jouer jusqu'à la dernière journée. Je me souviens encore des calculs qu'avaient pu faire tous les journalistes et tous les coachs pour essayer de savoir qui sera en fonction de quel résultat. Donc ce qui est sûr, c'est que voilà, les efforts, ils sont faits toutes les semaines pour essayer de remporter le match. Après voilà, il faut réussir à enchaîner. Ce qui est sûr, c'est que le groupe travaille. On a vraiment des joueuses au top par rapport à ça. Les filles, elles arrivent travailler avec la banane, elles se mettent dans les intensités et on essaye de se mettre le plus possible dans ces positions de gagner les matchs. Après, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est aussi le sport. Voilà, on gagne pas à chaque fois. En ce moment, on gagne pas assez, c'est clair.
Ouais, ouais.
Mais si on prend, si on arrive à sécuriser des victoires d'ici la trêve, on sera aussi dans une situation pas si inconfortable que ça.
Les deux victoires ont été sur des adversaires plutôt
directs,
plutôt prenables, et du coup, ça rassure un peu de se dire que voilà. Alors, au moins, on lâche pas des points
sur
des équipes du même niveau.
Aujourd'hui, on a vraiment une équipe qui embête la plupart des équipes, on nous le dit, hein, c'est dur de venir gagner chez nous, c'est toujours dur de jouer contre nous parce que défensivement, on a une assise qui est très intéressante, qui nous permet derrière d'accrocher des équipes. Après aujourd'hui, les victoires contre Landerneau et contre Saint-Amand, c'est clair qu'elles comptent cher pour la course justement au play-off et après pour potentiellement les play-downs se mettre en bonne situation. La défaite de 4 points à Charnay, elle est pour le coup un petit peu plus préjudiciable peut-être, même si Charnay fait une très belle saison et ça joue très très bien au basket et qu'on était à l'extérieur et que voilà. Après nous, ce qui est sûr, c'est que gérer aussi la charge avec la Coupe d'Europe, c'est pas toujours simple comparé à d'autres équipes du championnat qui jouent un match par semaine. Le jouer à deux, forcément, ça génère de la fatigue, mais on se cherche pas d'excuses non plus. Donc voilà, le but, ça va être de sécuriser le plus de victoires possible d'ici la trêve et de voir où ça nous mène.
Une dernière question, parce que le temps... Peut-être, Zé, t'as une question
Non, c'est ce que j'ai...
Attends, excuse-moi.
J'allais dire, il y a 2 ans, à la trêve hivernale, en termes de classement, c'était 8e.
Ouais, c'est ça.
Et derrière, il y avait eu un beau parcours pour aller chercher les playoffs. Et là, quand on regarde le classement par rapport à celui-ci, il n'y a pas tant de retard que ça, sachant que le 8e est à égalité de points. Ça doit être à la différence de victoires, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est Charnay qu'on a perdu. Après, il nous reste du coup à jouer La Roche qui a 2 victoires aussi, et Tarbes qui a 2 victoires aussi.
C'est ça, tellement Charnay, oui, il a 11 points. Donc, c'est vraiment minime l'écart jusqu'à la trêve. Ça va jouer dans un mouchoir, quoi.
Ouais, jusqu'à la trêve et jusqu'à la fin du championnat, la LFB, c'est vraiment très très dense.
Ouais.
Donc voilà, chaque petit match... il n'y a pas de petit match, en fait, tout simplement.
Rapidement, puisque l'émission va bientôt toucher à sa fin, pour rester un peu dans le côté tactique, sur quel axe de travail vous bossez depuis le début de la saison avec Aurélie? La défense, évidemment, on sait, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont peut-être changé?
Ouais, alors la défense, ce qui est sûr, c'est que c'est un de nos axes prioritaires parce que c'est l'identité sur laquelle on veut se construire. On veut être une équipe qui a la dalle.
Ouais, c'est la dalle angevine.
Voilà, bon, pour reprendre l'expression consacrée, mais voilà, nous, c'est vraiment cette notion là qui nous intéresse d'abord.
Ouais.
Et l'investissement de tout le monde. Après, derrière, forcément, il y a des ajustements à faire. On défend pas de la même façon sur des joueuses qui sont très très fortes sur le tir à 3 points, comme peut l'être l'équipe de Bourges, ou une équipe qui s'appuie plutôt sur un jeu intérieur dominant, comme peuvent être l'équipe de La Roche. Donc voilà, on prend nos options. Après, derrière, il y a toujours du travail pour des petites retouches, que ce soit en défense ou en attaque, et on essaye d'avancer et de faire grandir cette équipe-là en même temps qu'on grandit nous dans notre connaissance du championnat et de nos joueuses. Donc voilà, petit à petit,
on vous souhaite évidemment d'arriver à tout ce que vous avez envie de mettre en place, en tout cas dans cette équipe. Merci beaucoup Marius d'avoir été avec nous.
Mais de rien, merci à vous les gars.
Et merci au club de l'UFAB pour ce partenariat. Les gars, on va se retrouver du coup la semaine prochaine.
Juste pour préciser, pour demain.
Oui.
Il y a match.
Évidemment, on en a parlé.
Et il y aura des lives pendant le match sur nos réseaux.
Exactement, pour suivre un petit peu le match de plus près. Vous allez vous retrouver vous trois sans moi la semaine prochaine. Sinon, je vous dis à dans 2 semaines et puis on va vous laisser avec le générique et puis l'émission imaginaire qui arrive juste après. En vous souhaitant une très bonne soirée sur Radio G.